BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
Mais j'ai dit, il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, et bonsoir à tous.
Journée historique, disons-le sincèrement, en toute transparence. Le CAC 40 qui passe donc la barre des 8000 points ce soir à Paris, évidemment. Est-ce qu'il faut sauter au plafond ? Est-ce qu'il faut s'interroger aussi intrinsèquement sur les raisons de cette envolée des marchés financiers ? On va voir ça dans un instant avec Étienne Braque et puis avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, bien sûr.
Alors avec nos experts, nous allons aussi parler de la Banque Centrale Européenne qui a précisément contribué à passer ce cap aujourd'hui, la BCE, qui décide de ne pas baisser ses taux d'intérêt mais qui indique quand même que l'inflation reflue plus vite que prévu. Et puis on parlera aussi avec eux du fameux DMA qui entre en vigueur ce soir à minuit au sein de l'Union Européenne. Et enfin, l'emploi des seniors, il y a encore une réunion on travaille aujourd'hui à Paris sur le sujet, mais ça ne semble pas vraiment avancer.
Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure ? L'entrepreneur Léonidas Kalogiropoulos, Julien Damon, professeur à Sciences Po, et Dominique Corona pour le syndicat UNSA. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 20h.
Et tout de suite, c'est le journal.
Good evening business, le journal.
Nous accueillons Étienne Braque, qui est avec nous en studio. Bonsoir, mon cher Étienne.
Bonsoir, Guillaume.
Qui nous disait il y a 10 jours, oh, attendez, c'est pas loin, les 8000, attendez, c'est une question d'une dizaine de jours. Eh ben, il avait tout vu. 8000, 16 points ce soir à la clôture, mon cher Étienne.
Et la BCE qui a enfoncé le clou, hein, qui a vraiment permis au CAC 40 de toucher les 8000 points. 14h15, elle publie son communiqué. 14h30, 8000 points. Avec la BCE qui revoit à la baisse ses prévisions d'inflation. Elle prévoyait 2,7% d'inflation globale cette année. Finalement, ça sera 2,4%. Et puis ensuite 2% l'année prochaine. Donc si vous me suivez, bah, ça y est, on arrive à l'objectif de la BCE des 2%. Donc les baisses de taux qui étaient tant anticipées devraient arriver en milieu d'année. Hein, ça enfonce le clou là aussi. Donc vous avez l'obligataire qui se détend très nettement. Tout le pivot, bah, ça y est, là on voit enfin un peu plus clair sur la trajectoire de la BCE. Ajoutez également à cela, hasard de calendrier, les résultats d'entreprise. Hein, ce soir, Vivendi, oui, eh bien, ferme la page des résultats annuels du CAC 40, des résultats qui ont été spectaculaires. Souvenez-vous, en fin 23, il y avait des inquiétude par rapport au luxe. LVMH a gagné plus de 6% lors de sa publication. Hermès est à 2 300 €. Vous avez ajouté également à cela Total Energy qui avait publié des résultats très bons malgré la baisse des prix de l'énergie. Et puis enfin des perspectives qui restent tout de même robustes aux États-Unis. Ça c'est peut-être même un petit peu un problème pour la Fed. Il ne faut peut-être pas aller trop vite par rapport aux baisses de taux. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que les entreprises sont très exportatrices, très présentes à l'international. Et mine de rien, eh bien, cette forte présence en Amérique du Nord permet aux entreprises d'être confiantes pour cette année.
Merci beaucoup. Vous parlez d'LVMH, on apprend que Bernard Arnault est devenu ce soir l'homme le plus riche du monde. Vous voyez, ça va très très vite sur les marchés. On va écouter Christine Lagarde, justement, qui effectivement a revu à la baisse ses prévisions d'inflation, qui a donné un petit coup de pouce aux marchés financiers quand même. Écoutez.
Depuis notre dernière réunion en janvier, l'inflation a connu un recul plus important. Dans les dernières projections de la BCE, l'inflation a été révisée à la baisse, notamment pour 2024, ce qui reflète essentiellement une contribution plus basse des prix de l'énergie. L'inflation devrait maintenant s'établir à 2,3% en 2024, 2% en 2025 et 1,9% en 2026.
Voilà Christine Lagarde tout à l'heure à Francfort. On parlera taux d'intérêt, bien sûr, demain matin sur BFM Business, puisque vous le voyez si vous nous regardez à la télévision, c'est François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui sera l'invité de Good Morning Business. Ça sera demain matin à 8h15. On parlait de Vivendi, effectivement, qui vient d'annoncer ses résultats après la clôture des marchés, résultats pour 2023. Vivendi qui repasse dans le vert avec un résultat net part du groupe annuel à 405 millions d'euros. Un an auparavant, c'était une perte d'1 milliard. Canal+, notamment, a porté ses bons résultats puisque le groupe a enregistré 900 000 nouveaux abonnés l'an dernier, vient de nous dire Vivendi. 19h05, dans l'actualité, Bruxelles qui passe à la vitesse supérieure contre les véhicules électriques venus de Chine. La commission a commencé aujourd'hui l'enregistrement douanier, comme elle l'avait annoncé. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'une taxe rétroactive sur certains véhicules n'entre en fonction. Alexandra Paget.
Concrètement, les modèles désormais répertoriés en provenance de Chine pourraient être frappés d'une taxe rétroactive au moment de leur entrée sur le sol européen. Et ce, dès le mois de juillet, c'est-à-dire avant la fin officielle des investigations, sous forme de droits de douane provisoires, si le danger est jugé réel pour l'économie européenne. Ces droits sont aujourd'hui de 10%, ils pourraient grimper jusqu'à 20 ou 30%. Dans un document publié mardi dernier au journal officiel de l'UE, les rapporteurs mentionnent d'ores et déjà détenir suffisamment d'éléments qui tentent à montrer l'existence de subventions de la part de la Chine. Les aides accordées par Pékin aux constructeurs chinois prennent notamment les formes suivantes. Un transfert direct de fonds ou de passifs, des recettes publiques abandonnées ou non perçues et la fourniture de matières premières ou de composants à des prix défiant toute concurrence. Sans surprise, la Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE se dit déçue par cette décision et rappelle que la hausse des importations de marques électriques chinoises en Europe, d'environ 14% depuis le début de l'enquête, reflète une demande croissante des consommateurs européens pour ces voitures.
Alexandra Paget, puis puisqu'on parle auto, ça y est, c'était attendu. Le verdict est tombé dans l'affaire des faux espions, entre guillemets, chez Renault. Les trois prévenus ont été condamnés à de la prison. Il y a même une peine ferme pour le principal d'entre eux, Justine Vassogne, au tribunal correctionnel de Paris pour BFM Business.
Oui, Dominique Jevray a été reconnu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie par le tribunal correctionnel de Paris. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et à 40 000 euros d'amende. Dominique Jevray, un ancien militaire employé chez Renault à l'époque des faits, au sein de la direction de protection du groupe, une sorte de service secret créé par le constructeur, a conçu de toutes pièces une stratégie pour faire croire à Renault qu'il était victime d'espionnage industriel, ce qui n'était absolument pas le cas, on le sait maintenant, c'est ce que nous dit le tribunal. Cette stratégie mise en œuvre par Dominique Jevray, elle n'avait qu'un seul but, selon le tribunal, son enrichissement personnel. Dominique Jevray a artificiellement créé une angoisse d'ingérence étrangère chez Renault, a expliqué le président du tribunal. Il a porté préjudice à l'image de Renault, une entreprise internationale, et par conséquent, il a écorné l'image de la France à l'étranger, selon le président du tribunal. Renault, qui était partie civile dans ce procès, cependant pas subi de préjudice moral selon le tribunal. Renault aurait dû faire appel immédiatement à la justice française et non pas à son service secret interne pour régler cette affaire. Dernier point, on ne sait pas encore si Dominique Jevray va faire appel de cette décision. Il a 10 jours pour le faire.
Justine Vassogne au tribunal correctionnel de Paris. Puis un dernier mot avant de retourner sur les marchés. Spotify annonce qu'il va augmenter le prix de son abonnement premium en France. Il dit pas combien, mais il dit qu'il va le faire compte tenu, vous savez, de la taxe qu'impose désormais l'État français sur les services de streaming musical, précisément. 19h08. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle donc, record historique sur le CAC 40, 8016 points ce soir, plus 0,77%. Etienne, pour une fois, il n'y a pas de record à Wall Street, mais enfin bon, ça va bien quand même. Quoi.
Le S&P 500, sur un record, mais oui, au-delà des 5150 points. Et puis vous avez un indice Nasdaq qui est par contre à 30 points des niveaux records, ça va très vite, avec notamment Nvidia qui là, ça y est, touche les 900$, qui est sur un record, qui gagne un peu plus de 2%. Donc ça explique une nouvelle fois la nette surperformance du Nasdaq. À noter qu'aujourd'hui il y a une des 7 magnifiques qui va pas très bien, c'est Tesla qui continue de souffrir, au point même que désormais vous avez Novo Nordisk qui est passé devant Tesla, c'est pour dire, Novo Nordisk qui est la première capitalisation européenne et qui pèse même sur Eli Lilly, puisque le groupe qui est coté à Copenhague a annoncé une nouvelle version de son traitement anti-obésité. La valeur a gagné un peu plus de 8% ce soir et donc ça pèse sur Eli Lilly. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y a aussi des traitements anti-obésité avec ces deux titres qui gagnent plus de 30% et qui ont doublé en l'espace d'un an. Et donc des marchés aux États-Unis qui sont sur des niveaux records avant l'emploi américain demain à 14h30.
Ça sera évidemment le grand temps fort demain vendredi. Merci beaucoup Étienne, 19h09. On revient bien sûr avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant. Beaucoup de choses, les marchés au sommet, à Paris notamment, avec la petite contribution de la Banque Centrale Européenne. L'emploi des seniors en France, ça n'avance pas. Et puis toujours ce débat, est-ce que c'est l'assurance chômage qui va faire les frais du tour de vis? Ouais, écoutez Thomas Cazenave qui est un petit peu lézardé sur le sujet ce matin. Tout ça plus d'autres choses jusqu'à 20h évidemment, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h12 sur BFM Business, bienvenue dans les experts du soir. Nous allons tout de suite parler de ce record historique du CAC 40. Nous sommes avec Dominique Corona, bonsoir.
Bonsoir.
Général adjoint de l'UNSA, Julien Damon, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur associé à Sciences Po Paris et Léonidas Calogéropoulos, PDG de médiation et argument. Et nous avons un quatrième invité, Wilfried Galland, directeur stratégique chez Montpensier Finance. Donc on voyait venir ce record depuis quelques jours. La barre des 8000 points pour la première fois a été franchie.
Il y a eu une petite hésitation pour y arriver. Oui, voilà,
mais enfin, on l'a fait. Donc c'est une date historique pour l'indice qui est sur une belle séquence puisqu'il a progressé, tenez-vous bien, de 18% depuis la fin octobre. Wilfried Galland, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut s'interroger sur ce chiffre? Ou les deux?
Soyons positifs, on va d'abord s'en réjouir quand même. C'est toujours les gens de marché, on est toujours un peu des numérologues, hein, donc on est attaché, on est des petites natures, donc on est attaché au symbole. Et c'est vrai que 8000 points, c'est véritablement un symbole. Ça faisait un certain temps qu'on l'avait en ligne de mire. Tout le paradoxe, c'est que ça a été franchi quasiment exactement au moment de la publication du communiqué de la Banque Centrale Européenne, voilà, qui pourtant ne disait vraiment pas grand-chose, en fait. Il y avait quand même une très grande prudence, comme d'habitude, de la Banque Centrale Européenne. Mais cette grande prudence ne s'accompagnait pas de mise en garde supplémentaire. Et donc, finalement, ça a permis d'avoir ce petit élan supplémentaire qui nous a permis de franchir les 8000 points. Alors, effectivement, ça s'appuie sur des choses qui sont très positives. Néanmoins, je rappelle quand même qu'on fait pratiquement 10% de progression sur le CAC 40. Si on continue à ce rythme-là, on serait sur 50% de hausse sur l'année. C'est quand même beaucoup, hein. Donc on va oui, devoir quand même à un moment donné se calmer. Mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle et on va quand même en profiter.
Vous bougez pas, Wilfried. On vient à vous dans un instant. Petit tour de table ici sur ce record des 8000 points. Dominique Corona, qu'est-ce qu'on regarde du côté de l'UNSA? Est-ce qu'on dira l'exubérance des marchés dans toute leur splendeur? Comment est-ce que vous regardez ça à votre
avis? On se pose la question, effectivement, au moment où le gouvernement, on va faire des rabots sur 10 milliards d'euros.
On va en parler
tout à l'heure. Je pense, au même moment, on voit que la bourse flambe. On voit que les dividendes ont été aussi très important en 2023, on parle de 140 milliards d'euros. Enfin, ça n'a rien à y comprendre. Moi, je suis français, citoyen français, je regarde ça, je dis, mais on se moque de nous, en fait. En fait, il y a des choses qui vont extrêmement bien, et puis nous, on nous dit, ça va mal, et vous allez voir, on va vous tout ratiboiser, tout ça. Donc, ce sont des signes
contradictoires. C'est aussi l'argent de petits actionnaires lambda, comme vous et moi.
Le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est que d'un côté, on ne peut pas nous dire, tout va mal, quand on voit effectivement que le CAC 40 explose.
Mais attention, Français, Dominique, parce qu'on a une économie à deux vitesses. On a aussi des PME qui se portent très mal. Il y a des faillites en pagaille, des difficultés de remboursement de PGE. Et certains feront du CAC 40, c'est vrai, qui présentent une santé de fer. Mais c'est une économie à deux vitesses.
Et est-ce qu'on leur demande de participer plus activement encore à l'effort de guerre, entre guillemets, économique que nous devons mener?
Ça aussi, ça sera un débat dont on peut
parler. Je ne crois pas pour le moment. Donc c'est incompréhensible.
Mais est-ce qu'il ne contribue pas à l'effort de guerre en investissant, en assurant cette croissance, en étant en capacité d'aller chercher tous les actionnaires qui sont effectivement présents et qui font grimper les cours de bourse. Il y a peut-être qu'on met notre regard du mauvais côté, peut-être qu'il faut regarder davantage du côté de la bourse, c'est-à-dire que quelque part l'économie réelle du pays est peut-être plus saine et dynamique que tous ces mécanismes que l'État met en place et dans lesquels il se dépatouille et pour lesquels peut-être que finalement ça, c'est pas là que ça marche. Je trouve qu'il y a un dynamisme. Enfin, vous le prenez un peu comme étant quelque chose de choquant. Moi, je trouve que c'est très encourageant. Au contraire, ça veut dire que nous avons des locomotives. Exactement. Et je ne suis pas certain qu'il faille les mettre à contribution. Je sens derrière ce terme l'idée de les taxer pour répartir. Mais ils contribuent déjà en étant cette locomotive.
Ah, non, mais attendez, mais non seulement ils y contribuent déjà, mais on est quand même dans le pays qui a la pression fiscale la plus importante. Enfin, il ne s'agit pas de remettre une couche.
TP aussi, PME aussi, qui se souffrent actuellement, etc. Beaucoup moins que ces grands groupes-là.
Julien Damon, une fiscalité en deux teintes, ça vous semble jouable?
En tout cas, c'est vrai qu'il y a des informations en deux teintes. D'un côté, un État qui se dit en quasi-faillite ou presque, et de l'autre, des entreprises dont les revenus flambent. Mais je pense qu'il faut préciser que derrière cette bonne nouvelle, puisque je pense que c'est une bonne nouvelle, ce sont des multinationales, ces entreprises. Ce n'est pas la même chose que nos petites PME locales, même si certaines peuvent avoir des marchés à l'international. Ce que je pense aussi, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que ces entreprises, je crois que c'est pour la moitié de leur capital, c'est des détenus à l'étranger.
Oui.
Donc si j'avais une recommandation à faire, pas forcément maintenant, moi je ne suis pas dans les marchés, mais ce serait que les Français investissent davantage dans ces grandes entreprises. Ils verraient ce que c'est que du bon retour sur investissement.
Wilfried, on posait la question tout à l'heure. Effectivement, on voit d'un côté des résultats. Alors ça y est, je crois qu'on a quasiment tous les résultats sur le CAC 40 ou presque ce soir. On a 146 milliards d'euros de bénéfices nets, si je ne me trompe pas, sur l'exercice 2023 sur le CAC 40. On a des signaux plutôt encourageants. On a des banques centrales, on va parler de la BCE dans un instant, qui laissent entrevoir peut-être prochainement une baisse des taux d'intérêt. Qu'est-ce qui peut arriver au marché ? Est-ce que c'est du côté de la conjoncture ? Est-ce que c'est du côté de la géopolitique que pourrait venir un éventuel signe noir ? Ou vous ne voyez pas vraiment de signaux négatifs à ce stade, Wilfried ?
Je pense qu'il faut être très clair sur le fait que le principe du signe noir, c'est qu'on le voit arriver au dernier moment.
Et voilà.
Le deuxième élément que je voulais souligner, et je vous entendais avec beaucoup d'intérêt sur le plateau, il ne faut pas surinterpréter le niveau du CAC 40 et en inférer un quelconque... De quelconque conclusion trop abrupte d'un point de vue économique. Les marchés ne sont pas et n'ont pas vocation à être le baromètre de l'économie. Les marchés, en fait, sont comme dans n'importe quel marché en bas de chez vous. En fait, les marchés donnent des prix à des actifs, effectivement, ce qui a été souligné sur ce plateau.
On a perdu Wilfried, voilà. Qu'on va retrouver
dans... Non, mais il va revenir dans un instant. Ouais. Non, mais ceci dit, c'est vrai que quand on regarde dans le détail, qu'on voit qu'Hermès bondit d'environ 18%, Schneider Electric 15%, LVMH 13%, Airbus 13% aussi, je comprends que Dominique Orona s'interroge sur le fait que nous pourrions peut-être mettre en place des taxes sur les dividendes à partir d'un certain montant.
Non, mais pardonnez-moi, sur les taxes, sur les dividendes, je voudrais juste faire un focus
avant
sur ce point.
Ce qu'il voulait dire.
Non, mais évidemment, je pense qu'Audrey a très bien synthétisé sa pensée. Avant de les taxer, enfin, d'abord, les taxes, elles sont proportionnelles. Lorsque les résultats sont bons, eh bien, les taxes rentrent, hein, et c'est très précieux. Mais quel bonheur d'avoir la capacité d'attirer des investisseurs. Attirer des investisseurs, ça veut dire d'être capable de se déployer dans d'autres pays, de pouvoir ouvrir de nouvelles succursales, de pouvoir embaucher, de pouvoir avoir des programmes de développement. C'est la meilleure nouvelle qui puisse exister pour des entreprises. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait se dire allons chercher davantage que ce qui va déjà rentrer dans les caisses de l'État avec les taxes telles qu'elles sont.
Alors,
les bons résultats vont permettre...
Pour une fois que j'allais dans votre sens, Dominique. Mais,
Dominique Corona.
Espérons que le monde soit bon et effectivement que les gens soient loyaux, républicains et qu'ils aient envie d'investir. Moi, je pense qu'il faut une meilleure redistribution en France. Quand on voit ces résultats,
ouais.
Eh bien, on ne peut que se poser la question, quand je travaille Airbus ou chez Hermès, je peux me poser la question en tant que travailleur, est-ce que moi, finalement, je vais voir la couleur de ce...
C'est pas les plus mal lotis, les salariés.
Alors, il y en a qui sont intéressés au capital. Alors,
c'est effectivement...
Mais total, les salariés sont les premiers actionnaires, je crois qu'ils ont 7% du capital.
Quelle est effectivement la redistribution de tout ça?
Oui.
Et puis après, je vais mettre un pavé dans la mer, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Bruno Le Maire. Et je crois qu'il y a eu un G20 financier,
oui.
28 et 29 février.
Oui.
Et il propose de taxer plus les hauts patrimoines du monde.
Non, pardon. Pour le monde, pas pour la France.
Mais ça peut être par moment un peu lié quand, effectivement, on a des grosses entreprises qui sont familiales, etc., etc., avec des gros capitaux.
Oui, mais à l'échelle du G20 et pas à l'échelle de la France.
À l'échelle du G20 et pas à l'échelle de la France.
Parce que sinon,
ça fait... Oui, enfin, la France fait partie du G20, mais la France est concernée aussi, Léonidas.
Non, mais je l'entends, mais la proposition de Bruno Le Maire, elle est bien dans l'esprit d'une économie mondiale. Et il le dit, comme il le dit pour les GAFAM, c'est pas un pays qui peut le faire parce que sinon les capitaux s'en vont ailleurs. C'est tous les pays.
Oui. Bien la complexité de mettre un projet comme ça en place à l'échelle internationale.
Il faut forcément que ça soit lancé quelque part. Bruno Le Maire l'a fait. Le moment où c'est lancé, c'est réalisé, mais ça doit se faire au niveau de l'OCDE. Si la France le fait, elle aura juste eu pour effet de faire.
Julien, d'abord.
Moi, c'est pas une petite remarque, c'est une petite question, une interrogation écrite. Qu'est-ce que veut dire CAC 40? Attendez, parce que je l'aurais dit avant. Oui. Parce qu'on est toujours là en train de dire le CAC 40.
Vous avez 4
CAC,
heures.
Tout le monde... Non, pas du tout. Non, mais il faut savoir, qu'est-ce que signifie ce sigle?
Bien, vous avez la réponse.
Compagnie des agents de change.
Ça signifie la compagnie des agents de change. En fait, aujourd'hui,
ça a changé.
Bravo, nos équipes en régie.
Assister en continu. Voilà. Ouais. Donc, c'était la petite minute information sur le CAC 40. Délié.
Oui, mais alors, en quoi ça précise votre positionnement, Julien?
Ah, non, pas du tout. Ça
ne
le
précise pas. Ah,
oui, rien, c'est ça. Tu me fais marrer.
Voilà. C'était un point sémantique.
Vous parlez à quelqu'un qui a écrit quand même que je 6 ou 7 que sais-je.
Oui, voilà. Et le 7e sera sur le CAC 40. Voilà.
C'est très bien. On libère, juste avant de libérer Wilfried, une question sur Christine Lagarde quand même qui a parlé. Alors, alors qu'il n'a pas dit explicitement on va baisser les taux, mais enfin qui nous dit l'inflation ralentit un petit peu plus que prévu, donc ça pourrait être pour bientôt. Est-ce que vous l'avez pris comme ça? Les marchés semblent avoir pris comme ça, Wilfried, aujourd'hui quand même. Hein.
Les marchés sont tellement prudents maintenant concernant Christine Lagarde et tellement sceptiques que l'absence de mauvaise nouvelle est désormais une bonne nouvelle.
Ah bon, bah,
donc on va espérer effectivement qu'on ait assez rapidement des baisses de taux. C'est ce qu'espèrent les marchés. Je pense que c'est ce qu'on espère également pour l'économie. On est allé beaucoup trop haut et beaucoup trop fort. Christine Lagarde semble commencer à le reconnaître. Espérons que ça va effectivement se concrétiser très rapidement. Oui, et j'espère avant juin.
Alors voilà, Christine Lagarde rhabillée.
Non, mais je trouve que le signal a été reçu fort et clair. Alors peut-être parce qu'on finit effectivement par décrypter le Christine Lagarde dans le texte, qui est effectivement consiste à dire que quand il n'y a pas l'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. Maintenant, c'est vrai que l'on a augmenté les taux tellement rapidement, peut-être que le rythme de baisse pourrait.
On précise quand même que la rumeur qui court, en tout cas chez les investisseurs, c'est trois baisses de taux qui devraient arriver à partir du mois de juin, suivi de septembre et de décembre. C'est ça, Wilfried ?
C'est effectivement les anticipations aujourd'hui des marchés. Quand on regarde les performances économiques de la zone euro, on se dit que ce serait bien d'aller un peu plus vite et surtout un peu plus fort dans les baisses
de taux. Et
alors,
ça serait une première que la BCE intervienne avant la réserve fédérale américaine ?
En tout cas, elle se targue d'être très indépendante et très regardante sur les données. Je pense que les données de la zone euro et les données de ralentissement économique de la zone euro devraient l'inciter à aller plus vite et plus fort que la Banque centrale américaine, qui, elle, en fait, bénéficie quand même d'un contexte économique bien, bien plus favorable. Attention quand même à ne pas générer trop de récession juste pour atteindre ces fameux 2% d'inflation. On voit bien qu'on est dans un processus de désinflation. Il ne faudrait pas qu'on soit dans un processus de récession.
C'est tellement juste ce que vient de dire Wilfried Galland. Véritablement, la crainte que l'on ait provoqué délibérément de la récession. Oui, j'entends bien.
C'est une crainte dont nous parlons depuis un an ici. Quitte à griller des cartouches, soit vous attendez trop.
On a déjà une grande partie de l'Europe qui est en récession.
Et je crois que c'est une vraie différence entre la Fed et justement et la Banque Centrale Européenne, puisque la Fed regarde aussi le taux de chômage, le taux de la croissance, alors que nous, on regarde que l'inflation.
Alors l'inflation, mais c'est vrai que si l'inflation reflue plus vite que prévu, l'inflation sous-jacente continue à poser quelques problèmes.
Oui, voilà, exactement.
Pour le feuilleton, ce qui sera le feuilleton du
feuilleton. Oui, on n'arrête pas d'être d'accord.
Les banques centrales aux avant-postes, oui, pour l'instant. Merci Wilfried, merci d'avoir été avec nous ce soir. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance avec nous, évidemment, sur BFM Business. On va parler de l'emploi des seniors, on revient en France, parce qu'il y avait encore une réunion de travail entre les partenaires sociaux aujourd'hui à Paris.
Voilà,
c'est terminé.
Sujet de Discord, a priori. Ouais.
Il n'y a pas eu d'annonce particulière. Alors attention, parce que mine de rien, là, on s'est donné a priori jusqu'au 26 mars pour trouver un accord. Ça va arriver vite quand même.
Oui, alors sauf que les réunions s'enchaînent et ça n'avance pas. Ouais. Ce matin, Catherine Vautrin a semblé leur mettre un petit coup de pression. Il faut conclure, dit-elle. On l'écoute tout de suite.
Notre volonté, c'est clairement que les Français, effectivement, puissent retrouver un travail. Et le sujet, c'est les 60-64 ans. Aujourd'hui, nous avons 33% de personnes qui sont en emploi. Ouais. Vous m'accorderez qu'il y a un peu de marge. Et c'est une des cibles sur lesquelles...
Parce que les entreprises ne jouent pas le jeu, c'est toujours pareil.
Nous devons travailler avec les entreprises, mais nous devons aussi travailler l'employabilité des seniors. Quand un senior perd son job, plus vite vous l'aidez à avoir une formation, à faire une validation des acquis, à remonter dans l'emploi, plus vite vous apportez une solution. C'est ça mon objectif et c'est pour ça que je suis là.
La parole au syndicat, Dominique Corona. Ouais. Emploi senior, ça passe ou ça casse?
Je pense que d'abord, c'est la faute du gouvernement. C'est un peu sérieux, Madame Vautrin, là, qui vient sur France 2 nous expliquer l'emploi des seniors. On a eu une réforme de retraite avant de parler de l'emploi. Enfin, donc après, c'est facile de venir sur les plateaux télé en disant aux organisations patronales et syndicales, parce que c'est les deux, de venir donner le son en disant dépêchez-vous, dépêchez-vous. Qui, effectivement, met la panique depuis le début? Le gouvernement qui menace les partenaires sociaux sur une réforme de l'assurance chômage qui devrait aller beaucoup plus vite s'il n'y a pas d'accord. C'est le gouvernement. Donc, laissez les partenaires sociaux travailler, donner confiance au dialogue social.
Non, mais là, les réunions s'enchaînent et ça n'avance pas, Dominique.
C'est toujours la même chose. Pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un MEDEF qui est extrêmement dur sur un certain nombre de sujets sur l'emploi des seniors et qui ne veut pas, effectivement, en contrepartie, aller sur le compte total universel, par exemple. Oui. Et Mais tout ça, c'est la posture pour le
mais
moment.
Mais Denis Grenade, si je vous entends bien, si vous permettez, juste pour bien comprendre, vous dites ça, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du patronat. Donc finalement.
Justement, j'ai dit que justement, le patronat en avait aussi ras-le-bol de la pression du gouvernement en permanence de se mettre de ce milieu de ce qui ne le regarde pas. Si effectivement le gouvernement arrêtait de dire au patronat et aux organisations syndicales sur le chômage, vous allez voir ce que vous allez voir, alors qu'on est en train de négocier, on n'en serait pas
non,
là.
Non, mais c'est vrai que pour une fois encore, pour aller dans le sens de Dominique, Léonidas, le gouvernement alimente un espèce de trouble en évoquant à tort larigot des pistes de réforme qui se télescopent avec les sujets qui sont justement sur la table des négociations.
Julien Damon.
Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'emploi des seniors, qui est un sujet grave, important, et tout le monde en conviendra. Puis il y a le sujet du dialogue social et du paritarisme à la française, sur lequel le gouvernement souffle non pas le chaud et le froid, mais le chaud du dragon, pour dire on va en finir. Et c'est la déclaration récente de Bruno Le Maire sur l'UNEDIC pour dire qu'il souhaitait mettre fin totalement au paritarisme. Et c'est vrai que ces dialogues...
Attendez, le paritarisme est encore vivant ou pas pour vous là?
Alors, ça dépend domaines. Il l'est dans l'UNEDIC, pour le moment, mais... Certains vont le considérer moribond, d'autres vont considérer qu'il peut avoir un rebond. Il l'est du côté de la GIRC-ARRCO, hein, c'est 70 milliards d'euros, c'est les retraites complémentaires.
Oui, mais aussi, pardon, le gun sur la tempe aussi, si vous me passez l'expression.
Alors, oui, mais le gun, je ne sais pas comme diraient les gens de NTM, là, mais il est quand même passé de côté. Là. Ils ne les ont pas eu, les sous là, de la
GIRC-ARRCO. Exactement, ils ne sont pas allés.
Et on l'oublie. Le paritarisme, il est aussi présent, alors de façon un peu, comment dire, symbolique dans toute la sécurité sociale, mais il est présent de façon gestionnaire en matière de logement, enfin pour la gestion du célèbre 1% logement. Donc il a encore des belles formes. Ceci dit, ce qui se passe, c'est que il est de plus en plus encadré par l'État. S'il y a des problèmes dans la négociation là, au-delà de bagarres sur le fond, sur le sujet, c'est que le gouvernement dit OK, négociez, mais vous négociez de ce que moi je vous dis de négocier.
Et qui dit, effectivement, après, je me permettrai ou pas d'agréer la convention juridique si j'en ai envie ou pas.
De toute façon, vous allez bien être obligé de vous mettre d'accord d'une façon ou d'une autre. Sinon, on va dire, l'État reprend la main, puis là, le paritarisme...
Vous allez devoir trouver un accord.
Mais au sein du gouvernement...
Moi, je vous le dis, au sein du gouvernement, il y a des jeux dangereux que je trouve, que nous trouvons, nous, actuellement, entre, d'un côté, Bercy, qui met de l'huile sur le feu, d'un côté, Mme Vautrin, qui dit, mais il faut trouver un accord. Qui se mettent d'accord entre eux, déjà, un peu. Ça serait quand même un peu bien qu'ils nous laissent un peu tranquilles, parce que sinon, depuis le début, on a un problème avec ce gouvernement et ce président de la République sur les corps intermédiaires. Il n'y croit pas. S'il n'y croit pas, il ne fallait pas qu'il fasse le CNR.
Ça, c'est sûr que c'est l'idéologie du macronisme.
Il ne fallait pas qu'il aille jusque-là. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, mettre cette pression sur l'impression, il faut trouver des solutions.
Bon, moi, je voudrais vous dire sincèrement que je vous trouve collectivement pas très créatif sur ces sujets. Je trouve sincèrement que c'est toujours les mêmes pistes. C'est toujours une question de retrouver du CDI. Les évolutions et les mutations, vous les mettez pas sur le métier. On dirait que le scénario est écrit d'avance, c'est toujours la même chose, vous butez tout le temps sur les mêmes sujets. Je le dis collectivement sur une critique du paritarisme, parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'entreprises, entrepreneurs qui ont des idées innovantes. Et tous ceux qui travaillent sur les plateformes, sur les auto-entrepreneurs, ont plein d'idées, plein de projets. Ce ne sont jamais les projets sur lesquels il y a des débats.
On a aussi un peu le sentiment que les propositions qui sont mises sur la table de la part des syndicats, et qui sont parfois très créatives, sont systématiquement balayées d'un revers de main.
Oui, j'allais dire, c'est presque une critique du modèle que vous faites, et je le partage. Il y a des idées créatives, on dirait qu'elles n'ont jamais leur place dans ces grandes messes.
Ce que vous évoquez, ces négociations ne portent que sur les salariés, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les indépendants. En fait, on s'en fout un peu, ce qui est un peu dommage.
Mais c'est absurde, on parle du marché du travail. C'est le marché du travail qui est en jeu. Si on arrive à retrouver.
Le marché du travail, il y a 90% de salariés en France, et Paris ne porte que sur les salariés. Les autres sont un petit peu seul et peuvent s'y déployer des idées neuves dont pourrait s'inspirer le monde du salariat.
Dominique Corona, pour conclure là-dessus.
Mais on a un problème sur le paritarisme, sur l'emploi des seniors. On manque effectivement, soi-disant, d'idées. Mais qui licencie parce que ça coûte trop cher? C'est quand même les employeurs, mais il faut être un peu sérieux. Qui, au bout d'un moment, ne met pas de l'argent sur la formation des seniors? Et c'est documenté. C'est les employeurs. Quand nous, on demande...
Je ne suis pas d'accord avec cette approche.
Mais ce n'est pas une question d'accord. Non, mais c'est les chiffres. Les chiffres, effectivement, démontrent qu'on met moins d'argent sur la formation professionnelle et sur les seniors. Mais je serai employeur, je ferai pareil. Parce qu'on partira en retraite, donc pourquoi je vais investir sur quelqu'un qui va partir? Par contre, quand nous, on demande négocier dans les entreprises le plan d'accompagnement des compétences, on dit non, c'est un problème d'employeur, vous n'avez pas votre mot à dire. Bien non, moi j'estime que non.
Moi, je pense pense qu'il y a d'autres manières de faire en sorte que l'idée d'avoir pour les seniors une sorte de miroir de ce qui peut exister pour les étudiants en accompagnant, en faisant du mentorat, en allant du autre côté, ce sont des pistes qui sont intéressantes et qui sont.
On a essayé avec le contrat de génération.
Allez,
on
voilà.
Le couple avec
la retraite progressive. Vous avez promis du désaccord, il est là.
Je vous rassure, il reste 15 jours de négociation, parce que je crois que la dernière réunion, oui. Le 26 mars, ça peut aller au-delà. Mais enfin, bon, voilà, ça serait dommage quand même que ce sujet qui a réémergé à la faveur, de la réforme des retraites ne soit pas quand même suivi des faits. On suivra ça en tout cas sur BFM Business. Allez, 19h31, je vous redonne les grands titres de l'actualité ce soir. Donc ce record historique sur le CAC 40 qui a fini au-dessus des 8000 points pour la première fois de son histoire. 8016 points. Puisque je vous parle du CAC 40, on vient d'apprendre que Alstom allait quitter l'indice phare de la Bourse de Paris et que c'est Accor qui allait le réintégrer. La Banque Centrale Européenne ne baisse pas ses taux d'intérêt, mais elle a revu ses prévisions d'inflation à la baisse aujourd'hui, ce qui a laissé penser au marché qu'elle pourrait bientôt les baisser. Ce qui explique en partie cette belle performance sur le CAC 40 aujourd'hui. Mauvaise journée par contre, encore une de plus pour Téléperformance qui a encore perdu 23% à la Bourse de Paris, qui en avait déjà perdu 14 sur une séance la semaine dernière. Vous savez que le titre souffre, notamment depuis qu'un concurrent suédois a communiqué sur le potentiel de sa propre IA générative. Et puis le verdict est tombé dans l'affaire des faux espions, entre guillemets, de Renault à faire monter de toutes pièces. Le principal prévenu a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme et 40 000 euros d'amende. Il y a eu des peines de prison de sursis pour les deux autres prévenus. 19h32, on revient dans un instant avec du sujet hautement consensuel aussi.
Voilà, des accords et des désaccords. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, c'est parti pour un débat autour de l'assurance chômage. Nous sommes avec Dominique Corona, Léonidas Kalogeropoulos et Julien Damon. Donc on revient sur cette déclaration prononcée par Thomas Cazenave qui estimait hier qu'il faudrait donc trouver au moins 20 milliards d'euros d'économies l'an prochain, répartis entre l'État et la Sécu. Bruno Le Maire avait lui clairement visé l'assurance chômage quelques heures plus tôt.
Oui, sauf que ce matin sur BFM TV, Thomas Cazenave a un petit peu lézardé. Vous savez comment on dit quand on l'a demandé si effectivement pourrait y avoir un nouveau tour de vis sur la durée ou les conditions d'indemnisation de l'assurance chômage. Écoutez Thomas Cazenave.
Il y a un travail qui est fait d'abord sur la réforme de l'assurance chômage.
20 milliards d'excédents à l'UNEDIC.
Mais vous savez, c'est important, c'est-à-dire que quand vous faites des réformes, par exemple la réforme des retraites, la réforme sur le marché du travail, ça génère aussi des excédents. Et donc on a quand même nos finances publiques en partage. C'est quand même un sujet d'intérêt commun. Et donc, par ailleurs, sur la réforme de l'assurance chômage, il y a des discussions qui ont lieu entre les partenaires sociaux. Nous, notre enjeu, c'est qu'il faut que l'orientation du plein emploi pour tous jusqu'à 64 ans soit bien intégrée et la considération sur les finances publiques.
Pas compris où il veut en venir, là, exactement.
Bah, il veut en venir. Il veut en venir. En fait, on est en état d'urgence budgétaire, avec un objectif quand même clairement affiché.
Mais il y a une stratégie.
De l'État de serrer drastiquement la vie sur l'assurance chômage.
Il y a une stratégie, à laquelle je souscris d'ailleurs, et je trouve que tous les Français devraient y souscrire. La stratégie, c'est le cap vers le plein emploi qui est capable, arithmétiquement, de permettre de retrouver nos comptes, un équilibre sur nos comptes. Alors, on veut que tous les efforts...
Quand même du plein
emploi. Non, mais on est en train de s'en éloigner, j'entends bien, mais les emplois, vous le savez comme moi, ça ne se décrète pas. Donc, il y a une espèce de volonté d'endiguer tout le monde vers cette volonté-là. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué, que ça marche pas bien, c'est en train de dérailler. Et donc, mais la stratégie en elle-même...
Donc, c'est en réduisant les droits des chômeurs qu'on les remet à l'emploi.
Non, là, vous ne pouvez pas dire ça, pardonnez-moi.
Je vous pose une question parce que c'est
oui,
ce que
mais
j'ai
je vais
compris.
Vous répondre. Je vais vous répondre. Lorsqu'il y a de 300 à 500 000 emplois non pourvus et qu'il y a un taux de chômage en face, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien là, sûr. Il faut que la rencontre se fasse.
Ça va une formation, une équation entre l'offre
et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va baisser de 854 millions avec le coup de rabot, effectivement, tout l'accompagnement, le volet sur les mutations économiques pour les chômeurs.
Non, il y a l'idée, je pense, globalement, que la question de la formation, je pense qu'elle est prise. L'accompagnement par Pôle emploi, je pense que les efforts sont faits pour que ce soit un accompagnement de plus en plus individualisé.
Et c'est pour ça aussi qu'on va faire...
Pardonnez-moi, Dominique Corona, avec votre permission, on peut être dans l'emploi, peut-être pas dans l'emploi de ses rêves, pendant 6 mois, pendant 1 an, et parallèlement chercher et trouver l'emploi de ses rêves au bout d'un an. Trouvez... Est-ce qu'il faut, pour trouver l'emploi de ses rêves au bout d'un an, passer un an au chômage?
Et est-ce que vous trouvez normal que, justement, on parle de formation professionnelle, qu'on a mis en place un CPF et que maintenant on veuille rogner les droits des travailleurs en mettant un forfait de 10%? Ça, c'est ce qu'a dit M. Cazeneuve, il a encore changé d'avis. Il change souvent d'avis d'ailleurs. Il annonce qu'il va réduire les retraites en disant que ça sera plus sur l'inflation. Le lendemain, il a changé d'avis.
Il a changé d'avis.
Donc, souvent David. Donc, oui. Moi, j'apprécie, mais ces ballons d'essai m'inquiètent. On ne peut pas dire on veut le plein emploi et dire simplement on va baisser les droits du chômeur. Quand en parallèle, on enlève des droits au CPF, quand en parallèle, on dit on va réduire les budgets sur les mutations au niveau du travail, ça pose un problème de cohérence.
Nicolas, moi je voudrais vous demander comment est-ce que l'on fait pour rester statique devant l'organisation dans le marché du travail quand il y a 300 à 500 000 emplois non pourvus. Comment on fait pour que ces emplois soient pris?
Je ne crois pas, moi, que c'est en baissant le droit des gens que c'est un problème de formation.
Il n'y a pas d'adéquation entre l'offre et la demande.
Bien sûr, et puis il y a des problèmes aussi géographiques. Il y a des problèmes aussi de logement, de mobilité. Il y a quand même tout ça qui existe. On ne peut pas faire fi de tout ça.
Mais alors, Julien Damon, parce qu'on précise que l'objectif, évidemment, c'est de s'attaquer au gros des dépenses publiques, oui, c'est-à-dire à la dépense sociale, avec des réformes structurelles. Non, mais je rappelle que la France est un des pays où le système, évidemment, est parmi les plus protecteurs. 18 mois de durée d'indemnisation, c'est bien au-delà de ce que les pays voisins proposent. Et pareil sur la dégressivité des allocations.
Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que l'on se concentre tant dans le débat sur la question du chômage, qui est une question clé. Ça peut se comprendre d'ailleurs avec Thomas Cazenave, parce que rappelons-nous, il était directeur général de Pôle emploi, donc c'est un des sujets qu'il connaît
normalement
mieux,
il le connaît,
sur lequel
sujet,
il prend le plus la parole. Mais c'est absolument pas le plus gros morceau de la dépense publique, et plus précisément de la dépense sociale. La plus grosse dépense sociale, tous en cœur, ce sont les retraites. Les retraites, c'est à peu près la moitié.
Alors ça, on est censé s'y avoir été attaqué il y a quelques mois, je vous rappelle.
Mais si on ne s'y réattaque pas, on ne progressera pas. Si on veut trouver 20 milliards d'euros en grappillant dans tous les coins, bah, tous les coins ne seront pas contents. Moi, je pense qu'il faut faire des grands mécontents, et ces grands mécontents, ce devraient être, tous en cœur, les retraités. Voilà. Je m'explique. Les dépenses publiques...
Mais les retraités votent.
Oui. Mais les chômeurs aussi, mais ils sont moins nombreux.
Oui, mais pas pour les mêmes.
Pas forcément, c'est vrai. Pas forcément, évidemment. Bon, ceci dit, mettons de côté la question politique, qui est une question clé dans toutes les affaires, et regardons ça froidement. Les ordres de grandeur, la dépense publique... Pour le quart d'entre elles, le quart de la dépense publique, ce sont les retraites. Oui. En fin d'année dernière, en gros, on a augmenté les retraites de 5%. Si vous augmentez de 5% un montant total qui est de 400 milliards d'euros, ben, après, vous pouvez toujours aller grappiller 10 petits milliards d'euros, c'est ridicule. Donc je pense que le sujet clé, ce sont les retraites. Voilà. Alors on peut se bagarrer après sur les chômeurs, ouais, on est trop méchants, pas assez méchants, etc.
Nous disent on va s'y recoller à la fin de la décennie.
Non, mais de toute façon, globalement, sur le sujet de l'assurance chômage, depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron n'a jamais caché cette volonté
de la nationaliser.
D'annexion, bah voilà.
On va prendre la main, disait Bruno Lemerrière.
Je voudrais me répondre aussi à Dominique Corona, parce que ce sont des sujets passionnants, le fait qu'on ait un regard de syndicaliste et un regard d'employeur. Dans le secteur des services à la personne, je connais assez bien, où il y a beaucoup de travail temporaire, on constate que plus de 95% des collaborateurs veulent s'arrêter de travailler à 20 heures. Pourquoi à 20 heures? Parce qu'à partir de 20 heures, ils constatent que s'ils dépassent ce cap, eh bien, ils commencent à perdre un certain nombre d'aides par rapport au fait qu'ils sont en travail temporaire, et le revenu de leur travail ne compense pas ce qu'ils vont perdre parallèlement. Donc il y a une espèce de système qui, globalement, incite les gens à rester à l'écart de l'emploi.
C'est un sujet auquel il va répondre, mais ce n'est pas le même sujet.
Non. C'est la réduction de Dominique Corona pour l'UNSA.
Pas du tout, c'est totalement le même sujet. C'est totalement le même sujet. Ça veut dire que, pardonnez-moi, parce que c'est comme si le fait de travailler ne créait pas de la richesse. Si on a un système qui, globalement, dissuade à aller au bout de la création de richesse. Donc c'est pour ça qu'il y a la réflexion.
Dominique Corona vous répond.
On ajuste.
Je vais essayer. Oui, je comprends ce que vous êtes en train de me dire, mais c'est la même chose pour l'augmentation de la smicardisation de la France, avec zéro cotisation sociale au SMIC. Et donc, les employeurs ont du mal à employer parce que derrière, on demande des cotisations sociales. Eh bien, moi, je ne crois pas à tout ça. En fait, j'entends ce que vous dites, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que sur, par exemple, les exonérations de cotisations sociales, on va parler effectivement du budget, 75 milliards d'exonérations de cotisations sociales à toutes les entreprises, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le métier, sans aucune politique publique derrière. Eh bien, moi, j'estime, et nous estimons à l'UNSA, qu'il faut revoir ces aides publiques. Parce que ça fait partie aussi des rabots qu'on devrait mettre en place. Parce que toutes les entreprises n'ont pas besoin d'être aidées de la même façon. Tous les postes n'ont pas besoin d'être aidés de la même façon. La baguette de grand hypermarché n'est peut-être pas aidée de la même façon que le salarié dans la boulangerie.
Julien Damant, vous répondre. Je vous ai vu.
Oui, c'est un sujet qui revient en permanence de savoir ce qu'il faut mettre comme obligation derrière la réduction des cotisations sociales. Il faut avoir aussi à l'esprit, mais de Dominique Ornal sait bien que c'est aussi une transformation du système global de financement de la protection sociale. On bascule sur de l'impôt et sur de la CSG. Mais pour tenter un accord général, une observation par rapport à ce sujet et le précédent, qui est celui de l'emploi des seniors. Si les taux d'emploi des seniors étaient les mêmes que les taux d'emploi des 30-35 ans, il n'y aurait pas de déficit en France.
Oui.
Voilà, là-dessus, dans votre sens, et probablement aussi dans le sens de Dominique.
Vous résolvez le problème des 60-64 ans, du taux d'emploi,
Mais 60-64 ans, c'est Mme Vautrin qui a évoqué ce truc. Il faut plutôt prendre les 55-64 ans.
Oui, mais c'est encore plus criant sur les 60-64 ans, effectivement.
C'est plus criant pour les 64 ans que pour les 60 ans.
Ce qui est quand même intéressant, et on n'en a pas parlé, c'est qu'on a rarement vu, voire jamais, un gouvernement annoncer des mesures socialement difficiles en période électorale. Je vous rappelle que les élections européennes arrivent à grands pas. En général, on mise tout sur la transition écologique, sur plus d'argent, plus de budget et de financement. Là, c'est quand même précisément l'inverse.
Je pense qu'il y a urgence.
L'impôt ne rentre plus. Regardez les rentrées fiscales, elles sont à l'os.
Là, il y a...
Dominique Ornard.
Les impôts ne rentrent plus.
C'est pas moi qui le dis.
Ils ne sont pas les élections présidentielles.
Vous avez un certain Olivier Blanchard, qui est professeur à l'école d'économie de Paris, qui a dit une chose très importante. Il dit attention qu'à force d'austérité, on ne tue pas la petite croissance qui reste encore. Nous avons fait la même chose, dans le monde, dans le journal Le Monde, et nous avons fait la même chose après la crise des subprimes. Un ancien chiffre de l'FMI. On a fait la même chose avec la crise des subprimes. D'ailleurs, c'était à peu près le même qui était au gouvernement à cette époque-là. Donc même politique, même réponse. Attention. Si on fait de l'austérité trop forte d'un coup sur les budgets de l'État, il y a un risque fort de récession. Et ça, je pense que personne autour de la table n'a...
Mais 10 milliards sur 1400 milliards de dépenses, je pense que ce n'est pas encore l'austérité.
Eh bien, je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collectif de hauts fonctionnaires qui s'appelle servicespublic.fr. Quand vous dites que 300 millions de rabot sur l'aide au logement, si vous le mettez sur les APL, c'est 3,5 euros par mois pour tous les gens qui touchent les APL. Eh bien, c'est beaucoup.
On a déjà fait les 5 euros, ça avait été un gros problème.
Quand on nous dit c'est pas grand chose, ça se traduit concrètement. Si on prend par exemple sur les transports, 340 millions d'euros de réduction, c'est un an d'arrêt de la ligne 14 sur Paris, etc. C'est beaucoup.
Et j'ai noté dans ce coup de rabot le milliard d'euros sucré sur la recherche et l'enseignement supérieur qui est aussi extrêmement dommageable. Voilà, on pourrait faire
La transition écologique.
Tout le monde est d'accord pour qu'on fasse des économies, mais
j'ai jamais vu quelqu'un.
Tant que c'est pas sur votre palier, vous pouvez y aller.
Bonjour, vous allez être raboté.
Quelques minutes avant vos humeurs pour dire un mot. Quelques minutes avant vos humeurs pour dire un mot du DMA. Sujet sur lequel Leonidas va se répandre comme un liquide, vous leur laissez quand même un petit peu de temps de parole pour en parler. Entrée en vigueur à minuit du DMA, la nouvelle législation de l'Union Européenne, censée alors mettre au pas un tant soit peu les géants américains.
Non, c'est un début. Il faut considérer que c'est un début.
C'est un début, c'est quand même vachement avancé.
C'est qu'il y a un certain nombre d'imperfections. Est-ce que l'on a ciblé tout ce qu'on appelle les gatekeepers? Est-ce qu'ils sont tous dedans? Est-ce que tout est bien ajusté? Je sais qu'il y a des critiques sur le référencement des restaurants et l'hôtellerie, parce qu'on a mis des plateformes. Mais c'est un début, et c'est un début tellement salutaire. C'est le début de la reprise en main de notre destin digital, numérique, et la fin de la naïveté selon laquelle la liberté, pardonnez-moi, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je prends mes distances vis-à-vis du libéralisme. La liberté, oui, quand elle permet à des entreprises d'émerger et qu'elle permet, de se libérer d'un carcan administratif. Mais pas la liberté des géants de faire terre brûler et d'éviter à des petits concurrents d'émerger.
C'est la fin de la concurrence déloyale.
C'est la fin de la concurrence déloyale. Et pour éviter la fin de la concurrence déloyale, il y avait un très très beau dicton de l'abbé Lacordaire lors de la Révolution.
Liberté
entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
Dominique Corona,
Écoutez, vous voyez, on a des points d'accord.
Mais je n'en doutais pas.
Je n'ai jamais douté moi-même. Donc voilà. Quand aujourd'hui, on voit que nous avons sur nos téléphones tout de suite Google, qu'on n'a rien d'autre, etc., etc., ça empêche aussi des entreprises européennes de se mettre sur ces marchés alternatifs.
Bien sûr.
Et donc c'est très important. Et je vous donne un exemple de l'importance. Sur les données de santé des Français, eh bien, il s'est passé un truc extrêmement grave. On a donné l'accord à Microsoft d'avoir toutes nos données de santé. Alors que vous savez très bien que Microsoft est soumis au Patriot Act. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on n'avait pas de solution européenne.
Et on en a.
Et qu'il n'était pas assez.
Il y a des associations qui sont
en train de se monter. Et moi, j'allais.
Et j'en fais partie. Nous sommes à la ramasse là-dessus. Le dossier médical partagé, tutti quanti, on n'a jamais réussi à faire émerger. Mais ça, c'est une solution française.
Et la CNIL vient de donner autorisation de transférer de la CNAM toutes les données de santé à Microsoft.
Alors, vous voyez, encore une alliance entre nous. Mon association, l'Open Internet Project, fait partie de l'ensemble des associations qui vont contester cette décision. Et donc, je suis certain que nous serons ensemble. Oui. C'est effectivement une véritable convergence.
Et les, alors, le Conseil de la CNAM vous soutiendra, j'en suis quasiment persuadé.
En direct,
vous voyez,
on a.
Voilà.
Vous voyez, même l'irénisme que vous êtes porteur.
Annonce en exclusivité. Non, mais attendez, on précise juste pour les auditeurs ce qui a été voté. C'est que donc, ces acteurs qui sont jugés incontournables pour leurs utilisateurs, donc c'est Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et le chinois ByteDance, maintenant doivent informer Bruxelles de tout projet d'acquisition d'entreprises du numérique en Europe, quelle que soit la taille et la cible. Et l'objectif, c'est en effet d'arrêter cette concurrence déloyale et puis d'arrêter aussi l'accaparement de l'innovation. C'est ça, Julien?
Oui, alors il y a la technique de ce DMA, mais il y a surtout, à mon avis, à applaudir le fait que l'Union européenne sert à quelque chose et en tant que puissance. Ouais. Ça va être des amendes potentiellement colossales. Alors, Apple en a pris une récemment.
Alors, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial.
Et là, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de ces mastodontes.
Et 20 si récidives.
On est souvent en train de critiquer l'Union européenne pour dire « Ah, ils s'occupent de la taille des arêtes. »
Enfin, ils sont en train d'agir.
D'une manière assez frappante, on a une illustration de la puissance.
Thierry Breton, en fer de lance.
Mais ça démontre qu'on a le droit de taxer les entreprises.
Non,
c'est pas ça. Et ça démontre d'amener des amendes.
Dans le cadre de concurrence déloyale.
Mais ça veut dire, et là on se dit pas,
on
sait pas attention à
l'environnement.
Donc on voit bien effectivement que c'est possible avec une volonté politique.
Mais quand
c'est une volonté politique, effectivement, de dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut fonctionner.
Combien d'années de combat
sur l'égalité femmes-hommes, etc.
Non, mais pardonnez-moi, vous voyez, à propos de ce que dit à l'instant Guillaume, combien d'années, c'est l'idée du DMA, c'est d'anticiper et de prévenir les abus de position dominante. Parce que dans un cas comme Google Shopping, on en est à la 14e année d'instruction et le premier euro des 2,4 milliards d'amendes n'a toujours pas été versé. Donc effectivement, c'est absurde le système consistant à dire on laisse faire et on ne vient sanctionner que s'il y a un abus. Ça ne peut pas fonctionner.
Non, mais disons
comme ça.
Que les règles traditionnelles et les sanctions traditionnelles ne fonctionnaient pas. Et là, on a en effet enfin un arsenal législatif de l'économie du numérique adapté à ses spécificités.
Un petit brin de désaccord avec mon ami Dominique. Je pense qu'il faut quand même jamais confondre des sanctions d'un côté et de l'autre des cotisations. Ça, il sera bien d'accord. On peut sanctionner quand on a des comportements discutables. Après, on peut prélever, mais ceci pour aider à la protection sociale.
Mais on pourrait effectivement avoir aussi ce type effectivement de d'accord sur l'égalité homme-femme, sur l'emploi des seniors, etc., etc.
Voilà pour le DMA qui entrera donc en vigueur à minuit dans toute l'Union européenne. Bien sûr, on en reparlera largement dans Tech & Co, bien sûr, dans quelques instants avec François Sorel sur BFM Business. J'ai pas le temps de faire écouter le patron de Téléperformance, mais on va passer à vos humeurs, l'extra time comme tous les soirs. Vos coups de gueule, vos coups de cœur et tout ça en 30 secondes, ce qui est la belle.
Avec une alarme qui se met en place, on vous aura prévenu. Absolument. Julien Damon, allez-y.
Eh bien moi, j'en ai ras-le-bol des restaurants à musique assourdissante. C'est pas un sujet d'économétrie ultra élaboré, mais je propose pour cela non pas une interdiction, qui n'a strictement aucun sens, mais les mécanismes de marché les plus basiques, fuyez les restaurants qui font trop de bruit. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé, Julien, exactement?
La dernière fois, expérience.
J'étais avec mes beaux-parents et on n'entendait strictement rien. Vous allez me dire que c'est peut-être une solution à mille difficultés, mais là, en l'espèce, un restaurant plutôt élégant, plutôt chic, on n'entendait absolument rien.
Eh bien, je vote pour le coup de gueule de...
Ah oui, non, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas une intervention publique en la matière. Ah oui. Chacun ses goûts.
Il y a des combats.
Il y a une proposition quand même. On ne va pas faire un diagnostic de performance énergétique qui serait transcrit en diagnostic de performance sonore, mais je trouve que les restaurants devraient dire.
Il y a des combats essentiels.
Il y a des combats essentiels, exactement. Ce que j'allais dire, tout à fait, Audrey.
Il y a des combats fondamentaux.
Exactement. Léonidas Kalogiropoulos, 30 secondes, Léonidas.
Bien, je voudrais tirer un coup de chapeau et un coup de cœur à la décision de la Commission européenne. Ça va dans le sens de ce que nous disions, parce que ici, nous avons critiqué il y a à peu près un an le fait que l'on avait placé Mme Scott Morton comme hors poste de chef économiste de la DG Concurrence. Eh bien, le poste, le fiche de poste a été republié. Eh bien, désormais, désormais, il faut être ressortissant de l'un des pays européens. Et donc, ce qui s'est passé en plaçant une économiste américaine pour contrôler l'économie européenne ne pourra pas se passer demain.
Ce qui était quand même complètement hallucinant.
Hallucinant, c'est une reprise en main de notre destin.
Voilà, encore une fois, ça va dans le bon sens.
Comme quoi, l'Europe avance.
J'ai pas suivi ça, mais le poste n'est pas pourvu aujourd'hui.
Ah oui. Non, le poste n'est pas pourvu. Il est à pourvoir.
La fille Dominique va postuler.
Alors, c'est un appel.
Il doit être pourvu d'ici le 5 avril.
Voilà,
la publication est sortie quand même le 5 mars.
Et ben, l'appel est lancé. Dominique Corona, faites-nous finir en beauté. Oui. Allez-y.
Eh bien, moi, je vais vous parler du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Je vais pousser un coup de gueule parce que je trouve qu'au 21e siècle, que nous soyons encore obligés de mettre une journée nationale des droits des femmes, ça me révulse, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que même en France aujourd'hui, 58% des femmes sont au SMIC, qui restent plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, 39% des femmes sont dans l'encadrement seulement, alors qu'elles ont plus de niveaux, effectivement, que les hommes, etc., etc. Eh bien, je vous dis que ça suffit. Moi, je rêve d'une société où il n'y a plus cette journée du 8 mars, parce que la femme est l'égale de l'homme.
Eh bien, je ne peux que être d'accord avec vous, Dominique.
Mais tout de même, pardonnez-moi, mais la France est exemplaire en la matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès à continuer.
Enfin, la France est exemplaire en la matière depuis que les lois.
24% encore. En France, des différences entre salaire et les hommes sur le même poste, quand même.
Non, mais voilà, c'est ça, exactement.
40% corrigé.
Parce que la loi est exemplaire sur les conseils d'administration.
Sur les retraites, mais
ne baisse pas dit qu'on a atteint le nirvana de la perfection. Je vous dis qu'en la matière, quand on se compare, on est en avance.
Non, mais j'en profite pour dire que justement, il y a une émission spéciale sur le sujet ce soir à 22h, Impact by Tcherkov, dédié à la journée des droits des femmes. Et c'est la question que j'ai posée à mes invités. Faut-il un 8 mars ou pas? Et à quoi ça sert?
Et nous en parlerons.
On regardera.
Bien sûr, demain, de cette journée. Effectivement, demain, 8 mars.
Voilà.
On s'aimera sur BFM Business. C'est terminé pour ce soir. Merci, messieurs, d'être venus. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Julien Damon, professeur associé à Sciences Po Paris. Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Argument et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci beaucoup, messieurs. À très vite, avec plaisir. 19h55. Bah, c'est fini pour ce soir.
C'est fini, mais pas de panique, puisque le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.fr. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Demain, 18h pour Nouvelles Aventures. Tech & Co, donc ce soir.
Tout de suite.
Tout de suite, même, avec François Sorel et toutes ses équipes. Et puis, on se retrouve à 22h. Impact by Tcherkov, évidemment.
À tout de suite. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.